Bonjour et bienvenue, 10h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'armée israélienne promet une réponse sévère à des tirs de roquettes à partir du Liban voisin, le Liban dont le Premier ministre met en garde contre le risque de nouvelles guerres. Pendant ce temps, en Israël, la polémique continue autour du limogeage du patron du Shin Bet, à suivre dans un instant. En Turquie, nouvelle manifestation en vue ce soir. Le maire d'Istanbul, arrêté mercredi, doit de nouveau être entendu aujourd'hui pour soutien à une organisation terroriste. L'administration Trump met fin par ordonnance au statut légal de plus de 500 000 migrants latino-américains. Ils n'ont que quelques semaines pour quitter les États-Unis. L'aéroport londonien Heathrow, à nouveau pleinement opérationnel. Il a dû fermer hier suite à une panne électrique qui a perturbé le trafic aérien en Europe. Pour commencer, Israël au bord d'une crise constitutionnelle après l'éviction du patron du Shin Bet, Ronen Bar, chef du service de sécurité intérieure. Elle a été suspendue, cette éviction, par la plus haute instance judiciaire israélienne, mais Benjamin Netanyahou a menacé de passer outre. Michel Paul, c'est une grande partie du secteur économique israélien qui s'est élevé contre la sanction prise par le Premier ministre.
À commencer par la Histadrut, son secrétaire général souligne que la centrale syndicale israélienne ne pourra pas rester indifférente face à ce qui est qualifié de début d'anarchie. De son côté, l'Israel Business Forum, qui regroupe les 200 plus grandes entreprises privées du pays, notamment dans le domaine des technologies de pointe, menace de mettre à l'arrêt l'économie du pays si le gouvernement ne respecte pas le référé des juges de la Cour suprême. Menace de grève également de plusieurs municipalités, notamment celle de Tel Aviv et de la ville portuaire de Haïfa. C'est le cas aussi de plusieurs universités et du Conseil de l'Ordre du Barreau qui pourrait paralyser l'ensemble des tribunaux en Israël. À ce stade, la Haute Cour de justice israélienne a suspendu le limogeage du directeur du Shin Bet, une injonction temporaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou campe sur ses positions. Selon la loi, c'est le gouvernement qui décide qui dirige les agences de renseignement, proclame Benjamin Netanyahou. La procureure générale d'Israël a mis en garde Netanyahou, mais elle fait elle-même l'objet d'une procédure de destitution lancée par l'exécutif qui sera examinée ce dimanche par le gouvernement israélien. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
L'armée israélienne promet une réponse sévère aux tirs de roquettes à partir du Liban voisin. Ce matin, 3 roquettes ont été tirées du Liban vers le nord d'Israël. Elles ont été interceptées par l'aviation de l'État hébreu. À Beyrouth, le Premier ministre libanais a mis en garde contre le risque de nouvelles guerres. En Turquie, l'opposition a appelé à de nouvelles manifestations ce soir, au terme d'une journée qui devrait permettre d'en savoir plus sur le sort judiciaire réservé au maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Intercepté mercredi matin à l'aube, l'édile de 53 ans doit être de nouveau entendu pour soutien à une organisation terroriste. Selon son parti, il sera ensuite auditionné par le procureur général d'Istanbul avant d'être présenté au tribunal. Depuis mercredi, des manifestations monstres se sont propagées dans les deux tiers des provinces turques. En Serbie, le mouvement de contestation du pouvoir en place s'accompagne d'un phénomène nouveau dans ce pays des Balkans, l'apparition plus ou moins spontanée d'assemblées citoyennes ou assemblées populaires. Pour leurs initiateurs, c'est une façon de combler le manque de démocratie à l'échelle locale. Reportage à Belgrade de Laurent Rouy.
L'assemblée populaire du centre-ville se réunit pour la première fois dans la rue, devant la mairie. À l'intérieur se tient le conseil municipal dominé par le parti du président Vučić. Nebojša Milošević dirige la foule, il explique ce qu'est l'Assemblée populaire.
C'est un exemple de démocratie directe, vu que la démocratie représentative, hélas, ne fonctionne pas en Serbie et que l'État a été kidnappé. Alors nous, les citoyens, devons nous organiser en assemblée et prendre des décisions pour l'intérêt public.
Maya, elle-même manifestante, s'interroge.
C'est notre premier rassemblement. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, j'en attends un changement social, un changement de la conscience citoyenne, que les gens comprennent qu'ils peuvent prendre des décisions par eux-mêmes.
Jamais mise en place, l'assemblée citoyenne est pourtant prévue par la loi. Le conseil municipal doit examiner ses demandes. Nebojša s'adresse à la foule.
Nous avons demandé à ce que les professeurs en grève reçoivent une aide financière. Nous attendons maintenant que cette demande soit présentée au conseil municipal.
À l'issue de la réunion, aucune demande n'a été acceptée, mais à Čačak, les participants ont voté le renvoi du maire. À Niš, l'assemblée a bloqué une réunion du parti au pouvoir. La contestation en Serbie n'est plus seulement étudiante, elle est devenue populaire. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
L'administration Trump annonce qu'elle met fin par ordonnance au statut légal de plus de 500 000 migrants latino-américains. Ils n'ont que quelques semaines pour quitter les États-Unis. Cette décision concerne environ 532 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens, des migrants arrivés aux États-Unis dans le cadre d'un programme lancé en 2022 par Joe Biden. L'armée de l'air américaine s'équipe d'un nouvel avion de chasse, le F-47. La nouvelle a été annoncée par Donald Trump lui-même. La méga La commande se chiffre en milliards de dollars. Elle tombe à un très bon moment pour Boeing, Lubna Anaki.
En annonçant la nouvelle, Donald Trump se réjouit du nom donné à la toute nouvelle génération d'avions de combat. F-47, ça ne pouvait que lui plaire, lui, le 47e président des États-Unis. Ces avions doivent, selon lui, redonner aux Américains une domination dans les airs.
Le F-47 sera l'avion le plus sophistiqué, le plus efficace, le plus génial jamais construit. Rien au monde ne peut rivaliser au niveau technique. Aucun avion de chasse ne possède les mêmes capacités de vitesse, de manœuvrabilité et de capacité.
Ce contrat qui a fait l'objet d'un appel d'offres a été accordé à Boeing, une bonne nouvelle pour l'avionneur qui traverse une très mauvaise passe après une série d'incidents en vol et les mésaventures de sa filiale spatiale Starliner. D'ailleurs, Donald Trump lui-même s'était plaint car la livraison du nouvel avion présidentiel Air Force One par Boeing a pris du retard. En tout cas, ce contrat dont la phase de développement s'élève à plus de 20 milliards de dollars est une aubaine pour l'avionneur. L'action de Boeing a d'ailleurs progressé hier de 4,2%. Après ces annonces. Lubna Anaki, New York, RFI.
Direction maintenant le Nigeria où la crise se durcit dans l'état de Rivers, état pétrolier du sud du Nigeria. Jeudi, le Parlement a approuvé la mise en place de l'état d'urgence voulu par le président nigérian. Une décision contestée sur place, Willy Diallo.
L'avocat et militant de la société civile, Dele Farotimi, pointe du doigt sur X l'irrégularité du vote de l'Assemblée nationale. Selon la Constitution, ce texte doit être adopté à la majorité des deux tiers, mais les deux chambres ont tenu un vote à main levée qui n'a pas permis de comptabiliser les votes de manière précise. Autre critique, au sein de la classe politique et parmi les juristes, la décision par le président Bola Tinubu de suspendre le gouverneur Fubara, son adjoint et les membres de l'Assemblée législative de l'État de Rivers. La Constitution du Nigeria ne précise pas si le président dispose de tels droits en cas d'état d'urgence. Dès mercredi et avant même le vote du Parlement, le président Tinubu a mis en œuvre ses décisions et investi Ibok Eteibas comme le nouveau gouverneur de Rivers. Avec l'approbation du Parlement, il va donc remplacer Siminalayi Fubara pendant les 6 prochains mois. L'état d'urgence entre en vigueur à la suite d'un conflit politique dans l'État entre le gouverneur Fubara et son prédécesseur Nyesom Wike. Les tensions entre les deux hommes se sont multipliées au point de paralyser l'Assemblée fédérale divisée entre les deux camps.
C'était Willy Diallo. Enfin, ce 22 mars est la journée mondiale de l'eau. L'eau bien vitale, mais qui manque régulièrement pour près de la moitié des habitants de la planète. Confrontés à des pénuries, de plus en plus de pays se tournent vers le dessalement pour produire de l'eau potable. Par exemple, l'Algérie, pays qui en l'espace d'un mois, Justine Fontaine, vient d'inaugurer 4 usines.
Une cinquième est même en phase d'essai et devrait entrer en service prochainement dans la région de Béjaïa. Investissement total, 400 milliards de dinars, c'est-à-dire 2,5 milliards d'euros environ. Des chantiers confiés principalement à des filiales de la Sonatrach, la gigantesque compagnie pétro-gazière publique. De quoi permettre de quasiment doubler la capacité de production d'eau dessalée du pays. Et le président algérien Abdelmajid Tebboune prévoit de lancer l'an prochain 5 ou 6 projets d'usines supplémentaires. Objectif, répondre à 60% des besoins du pays en eau potable à partir de 2030. Dans le monde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël ou encore l'Espagne font partie des leaders du dessalement d'eau. Au Maghreb, le Maroc, touché par une sécheresse historique, a pour sa part annoncé fin octobre qu'il va construire la plus grande usine de dessalement d'Afrique. C'est pourtant loin d'être une solution miracle. Même si des progrès ont été faits, le dessalement consomme beaucoup d'énergie, en écrasante majorité du pétrole et du gaz, ce qui contribue donc à aggraver le réchauffement climatique. Enfin, les usines rejettent de l'eau très salée, parfois chargée en produits chimiques, ce qui affecte la biodiversité marine.
Et malgré cela, le marché de l'eau dessalée devrait doubler d'ici à 2031. Voilà, c'était Justine Fontaine. Très bonne journée sur RFI. Elle continue avec Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Il est pratiquement 11h10 ici à Paris.